Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous et bienvenue dans Ici l'Europe, à l'heure où l'Allemagne est à la recherche d'une coalition et où l'on s'interroge sur l'hibernation possible du moteur franco-allemand. Certains pays en Europe inquiètent particulièrement, à l'Est par exemple, pour leurs atteintes répétées à l'état de droit. Voilà pourquoi nous recevons aujourd'hui Didier Reynders, un Belge commissaire en charge de la justice. Bonjour Didier Reynders.
Bonjour.
Avant votre arrivée à la Commission en 2019, dans l'équipe dirigée par Ursula von der Leyen, vous avez été l'un des piliers de presque tous les gouvernements belges de coalition pendant 17 ans, successivement vice-premier ministre, ministre des Finances, des Affaires étrangères et européennes, de la Défense. Vous êtes membre de la famille libérale centriste, comme Charles Michel, l'actuel président du Conseil européen, et comme Emmanuel Macron. Votre principale mission aujourd'hui au sein de la Commission, faire respecter les principes démocratiques de l'Union européenne et assurer aussi la défense des consommateurs européens. Alors Didier Reynders, nous sommes pour 6 mois sous présidence slovène de l'Union européenne jusqu'à décembre avec un premier ministre conservateur populiste, Janez Janša, surnommé d'ailleurs maréchal Twitto parce qu'il tweete régulièrement contre les droits des réfugiés et est aussi accusé de museler sérieusement sa presse nationale. L'état de droit est donc à rude épreuve de cette présidence, vous diriez ?
L'état de droit est de toute façon à rude épreuve, pas seulement dans l'Union européenne, bien entendu dans d'autres régions du monde, mais nous sommes bien conscients depuis le début du mandat de cette commission que c'est une priorité de défendre l'état de droit parce qu'on ne peut pas le considérer comme étant acquis. Une fois qu'un pays accède à l'Union européenne, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, un jour ou l'autre, des problèmes d'état de droit, de respect des droits fondamentaux, de protection des minorités. Alors, vous citez la présidence slovène. Nous allons travailler sur l'état de droit avec la présidence. Donc, on va débattre du nouveau rapport annuel que j'ai proposé à la Commission en juillet dernier sur les 27 États membres. On aura un débat sur un certain nombre d'États, comme on le fait dans chacune des présidences, pour vraiment échanger sur ces sujets. Mais nous avons aussi des préoccupations directes en Slovénie. Vous parliez de la presse. Nous sommes en contact avec les autorités slovènes parce que nous souhaiterions un financement correct de l'agence de presse slovène. C'est un vrai débat que nous menons avec le gouvernement slovène. Parce que nous avons autorisé une aide d'État et donc nous demandons maintenant qu'elle soit déboursée pour que l'agence puisse réellement fonctionner. Et de la même façon, nous sommes en débat sur le parquet européen parce que nous avons un procureur slovène à Luxembourg dans le cadre du parquet européen, mais les procureurs délégués, comme il y en a dans tous les pays participants, ne sont pas encore désignés. Et là, nous avons vraiment pris des mesures très directes de contact avec le gouvernement slovène pour demander cette désignation. Et j'espère qu'elle va intervenir rapidement. Si ça n'est pas le cas, nous devrons aller plus loin et peut-être durcir le ton.
Didier Reynders, avant de revenir sur ces gros dossiers qui vous préoccupent au quotidien, on l'a bien compris, on voudrait avoir votre commentaire sur l'actualité européenne de la semaine. Le torchon brûle en ce moment entre Paris et Londres. La France n'a pas obtenu le nombre de licences de pêche qu'elle souhaitait pour ses pêcheurs dans les eaux britanniques. Elle estime que l'accord post-Brexit est bafoué. Est-ce que Paris peut aujourd'hui compter sur le soutien de ses partenaires? Est-ce que vous estimez que cet accord est bafoué?
Je crois que Paris peut vraiment compter sur le soutien des partenaires parce que c'est un long chemin de croix, malheureusement, cette situation avec nos partenaires britanniques. D'abord, on a regretté évidemment le Brexit, mais on l'avait dit, si c'est le choix des Britanniques, on va le mettre en place. On a négocié très longtemps. Mais malgré cette négociation très longue menée par Michel Barnier, on voit que faire respecter les accords reste un enjeu majeur avec nos collègues britanniques. Ça n'est pas la première fois. Déjà sur l'accord de retrait, il y avait des problèmes de mise en œuvre. On le vit maintenant dans le cadre même de l'accord qui a été négocié sur le Brexit même. Et donc, non, nous allons continuer sur chacun des sujets, et notamment en matière de pêche, à faire valoir le droit de tous les Européens. Et donc la France peut bénéficier, bien entendu, de la solidarité de l'ensemble de l'Union. Comme on l'a vu d'ailleurs dans un autre débat récent où la Grande-Bretagne était aussi mêlée aux nouveaux accords entre les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne dans le cadre indo-pacifique, il y a aussi une solidarité européenne en la matière et on a vraiment été aux côtés de la France dans ce débat.
Alors la justice européenne, dans un tout autre dossier, elle a donné raison aux indépendantistes sahraouis en annulant deux accords de partenariat commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne, qui concernait ce territoire disputé du Sahara occidental. La présence des pêcheurs européens dans les eaux marocaines est du coup remise en cause. Notre accord d'association avec le Maroc est à revoir.
On va devoir l'adapter en fonction, bien entendu, des conclusions de la Cour de justice. Vous savez, la Cour de justice est la plus haute juridiction de l'Union européenne. Donc, ces décisions sont contraignantes. Maintenant, ce que l'on fait, c'est analyser en détail l'arrêt rendu par la Cour, qui a reconnu le droit du Front Polisario à accéder à la justice, qui a aussi pris une décision sur le fond. Et nous allons voir quelles sont les conséquences à en tirer pour tenter de maintenir le plus possible de liens étroits entre l'Union européenne et le Maroc, et éviter une escalade dans des mesures. Vous parlez de l'accès aux eaux territoriales, par exemple. Je crois qu'il faut qu'on continue à essayer de travailler de la manière la plus proche possible avec les autorités marocaines. Mais bien entendu, il va falloir le faire en appliquant la décision de la Cour de justice.
Didier Reynders, on attendait cette semaine le réchauffement de la relation transatlantique avec la première réunion de ce Conseil américano-européen du commerce et de la tech qui s'est tenu à Pittsburgh aux États-Unis en Pennsylvanie. Mais l'accord de sécurité auquel vous avez fait allusion, passé par les États-Unis avec l'Australie et le Royaume-Uni sur le dos de la France et de ses ventes de sous-marins, eh bien cet accord, évidemment, a refroidi l'ambiance. On ne voit toujours pas, dans ce contexte, une majorité des 27 se rallier à l'autonomie stratégique de l'Europe, défendue par le président Macron. Qu'attendent les Européens ?
Alors, je crois qu'on voit cette autonomie stratégique progresser, de tout et de voir dans quel domaine. Vous l'avez vu progresser très fortement en matière de santé. Ça, c'était la force de la pandémie. On a vu la recherche en matière de vaccins, la distribution de vaccins, et même le rôle de leader de l'Union européenne dans la distribution de vaccins à travers le monde. Alors que, par exemple, les États-Unis avaient fermé leurs frontières pendant une longue période et ne voulaient exporter aucun vaccin, aucun composant. On voit maintenant que, en matière de sécurité, le même enjeu est devant nous. Comment renforcer cette autonomie? Et je crois que si on veut convaincre les 27, il faut surtout bien expliquer que cette autonomie, c'est renforcer le pilier européen, bien sûr dans des partenariats comme l'OTAN. Donc il ne s'agit pas de tourner le dos à des alliances, notamment avec les États-Unis. Nous sommes partenaires. Mais il faut bien se rendre compte qu'il va falloir gérer de plus en plus ce partenariat en ayant nos propres capacités, notre propre autonomie. Et on le voit dans les domaines que j'ai cités, mais on le verra aussi dans le domaine des nouvelles technologies, les microprocesseurs. Par exemple, avec mon collègue Thierry Breton, on va y travailler beaucoup, faire en sorte que nous ayons une certaine capacité de production dans ces domaines. Et c'est un enjeu qui va se répéter, parce que nous avons un partenariat avec les États-Unis, mais il ne faut pas se tromper. Les États-Unis ont leurs propres intérêts et mettront toujours leurs intérêts à l'avant-plan. Il faut que l'Union européenne apprennent à faire de même dans un partenariat adulte avec effectivement une véritable autonomie stratégique dans un certain nombre de domaines.
Alors revenons au cœur de votre mandat, commissaire à la justice. La Commission a désormais les moyens de bloquer le versement des fonds aux pays qui ne respecteraient pas l'état de droit. On pense bien sûr à la Pologne et à la Hongrie. La Hongrie où le gouvernement Orbán s'est lancé dans une vaste campagne anti-LGBT en restreignant les publications liées à la cause homosexuelle. Des précisions avec ce reportage à Budapest de Gulliver Krag.
En plein centre de Budapest, dans cette célèbre librairie, ce livre est classé sixième parmi les meilleures ventes. Son titre, « Le pays des merveilles appartient à tout le monde », un recueil de contes qui inclut les minorités. Les Roms, les gens vivant dans la pauvreté, les personnes LGBT. Le Premier ministre a qualifié ce livre de propagande homosexuelle et le gouvernement a demandé à ce qu'il soit vendu avec un autocollant d'avertissement. Début septembre, une nouvelle loi a restreint la vente de tout livre affichant du contenu LGBT. Et c'est ce qui inquiète Daniel Csiszer, libraire à Budapest.
Nous ne pourrons le vendre que s'il est emballé et séparé des autres produits. Comment faire ? En plus, la librairie ne doit pas se situer à moins de 200 mètres d'une église ou d'un établissement scolaire.
Pour Boldiszar Nagy, l'éditeur de ce livre, impossible de continuer à travailler en Hongrie. Il a décidé de quitter le pays même s'il admet que les Hongrois ne sont pas aussi homophobes que ce que leur gouvernement semble penser.
Des études et des sondages montrent que la population hongroise n'est pas aussi intolérante envers les personnes LGBTQ, mais la campagne du gouvernement entraîne une radicalisation des deux côtés, et ceux qui étaient déjà homophobes ou transphobes se sentent encouragés.
À l'extérieur de la librairie, ce couple d'universitaires n'hésite pas à exprimer ouvertement son point de vue.
J'ai entendu parler de ce livre de comptes. Je pense que ce n'est pas bien.
On pense que ce n'est pas bien d'exposer les enfants à ce genre de choses.
Ces restrictions sur les livres se font dans le sillage d'une autre loi introduite en juillet qui interdit le contenu LGBT dans l'éducation sexuelle et dans les émissions pour enfants. Face à l'action en justice mise en place par l'UE, la Hongrie a annoncé la tenue d'un référendum sur ce que le gouvernement appelle la protection de l'enfant.
Didier Renders, le référendum sur ce sujet sensible annoncé en début d'année 2022 est-il compatible avec les valeurs européennes ?
Il ne changera en tout cas rien à notre détermination de mettre en place des règles de protection des minorités, en ce compris bien entendu la communauté LGBTQ. Et je pense que c'est important de le rappeler. Nous avons introduit une procédure devant la Cour de justice, on a lancé la procédure contre la nouvelle législation en Hongrie parce qu'on sent bien qu'il y a une discrimination à l'égard de personnes en fonction de leur orientation sexuelle. Nous avions d'ailleurs pris des initiatives aussi à l'égard de la Pologne parce qu'on voyait des villes en Pologne décider d'être libres de toute présence LGBTQ. Et je pense que là aussi, il était important de réagir. On voit maintenant d'ailleurs qu'en Pologne, les choses sont en train de changer. Certaines municipalités reviennent en arrière en fonction de la pression, notamment dans les financements que nous avons développés. Et donc avec la Hongrie, référendum ou non, il s'agira de voir comment la Cour de justice pourra nous donner raison dans le débat que nous menons pour lutter contre des discriminations. Je le dis souvent, je peux comprendre qu'un État ne soit pas d'accord avec la Commission. Donc il y a un désaccord entre la Hongrie et la Commission, pourquoi pas? Mais lorsque nous avons obtenu une décision de la Cour de justice, elle sera contraignante. Et donc nous irons jusqu'à la faire appliquer. Et ici, on sent bien que la discrimination est là, nous en sommes convaincus. On doit protéger ces minorités et notamment, on doit garantir aussi la libre circulation, par exemple, des livres, comme vous l'évoquiez dans le reportage. On va imaginer qu'on commence à restreindre la libre circulation des livres, simplement pour mettre en œuvre une discrimination à l'égard de personnes en fonction de leur orientation sexuelle. Donc, nous allons continuer, référendum ou non, à agir dans ce sens.
Alors, Didier Renders, vous le soulignez, effectivement, des villes polonaises sont en train de faire machine arrière, mais en revanche, le gouvernement polonais, lui, reste droit dans ses bottes. Alors, est-ce que la Commission ira jusqu'à suspendre le versement des fonds liés au plan de relance, comme elle peut le faire aujourd'hui dans le nouveau dispositif ?
Alors, nous utilisons tous les outils à notre disposition. Et donc, vous savez que l'outil principal, maintenant, depuis l'année dernière, c'est le rapport sur l'état de droit. Mais pour que le rapport fonctionne, il faut que les États à qui nous adressons des remarques, acceptent d'en discuter et de tenter d'améliorer les choses. Si ça n'est pas le cas, nous allons devant la Cour de justice. Et à l'égard de la Pologne, notamment sur l'indépendance de la justice, nous avons demandé à la Cour de condamner la Pologne à une astreinte, à un montant financier à payer quotidiennement pour non-respect de cette indépendance. Et nous attendons maintenant une décision probablement au mois d'octobre. Mais c'est vrai, nous avons aussi des outils dans le cadre des discussions sur les financements. Le plan de relance est en discussion pour l'instant parce que dans les recommandations à la Pologne, nous avons toujours demandé d'avancer vers l'indépendance de la justice. Et donc la discussion est en cours. Il n'y a toujours pas d'approbation du plan polonais parce que nous voulons avoir des engagements clairs sur cette indépendance de la justice. Et vous savez qu'il y a un dernier instrument, c'est la conditionnalité entre tous les financements européens et l'état de droit. Ça a été mis en vigueur depuis le 1er janvier. Et comme l'a annoncé la présidente de la Commission, nous allons commencer à écrire à plusieurs États membres pour engager un dialogue sur les problèmes que nous voyons en matière d'état de droit. Donc, il faut vraiment utiliser tous les instruments. Et le gouvernement polonais doit comprendre, comme d'autres, que être en désaccord avec la Commission, c'est évidemment, je le répète, possible. Nous le regrettons, mais c'est tout à fait logique que ce débat ait lieu. Par contre, une fois qu'une décision est claire à l'échelon de la Cour de justice, cette décision est contraignante et le gouvernement polonais doit s'y plier. S'il ne le fait pas, il y a effectivement des outils financiers qui peuvent intervenir.
Alors vous êtes très attaché aux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, Didier Renders, mais elle est aussi mise en cause par l'ancien négociateur du Brexit et commissaire Michel Barnier, aujourd'hui candidat à la présidentielle en France, qui ne veut plus de la primauté du droit européen sur les questions migratoires, par exemple. Il vous déçoit ?
Ça a été un moment assez difficile de voir ce genre de déclaration intervenir, parce que c'est probablement ce que l'on reprochait d'ailleurs aux Britanniques pendant toute la discussion sur le Brexit. Alors je peux comprendre qu'une campagne électorale entraîne peut-être des propos qui vont très 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 loin, qui se radicalisent, mais il faut bien comprendre les choses. Si on n'est pas d'accord avec les règles européennes, ben, il faut les changer. Nous avons proposé un pacte migratoire, nous avons proposé de nouvelles règles en matière de migration. Le tout, c'est de changer ces règles. Ça n'est pas de reprocher à une juridiction d'appliquer ces règles. Et nous restons très attentifs à la primauté du droit européen, à la compétence exclusive de la Cour de justice d'interpréter ce droit européen, et au fait que seule la Cour peut dire si les institutions européennes agissent en conformité ou non avec ce droit. Mais il ne faut pas chercher une victime ailleurs. Ce n'est pas parce que des juges appliquent la loi qu'il faut s'en prendre aux juges, au contraire. Il faut évidemment respecter leurs décisions, mais si on le souhaite, changer les règles, et la Commission elle-même l'a proposé en matière de migration. J'insiste notamment sur le fait que nous avons proposé de renforcer les règles de retour en cas de refus de l'asile pour des personnes qui arrivent sur notre territoire, et même de négocier avec les États qui doivent recevoir ces personnes en retour, en essayant d'utiliser tous les outils à notre disposition. Et je constate que des États membres le font parfois individuellement, la France vient de le faire en matière de visa.
Un mot des élections allemandes, c'est les grandes élections de cet automne, hein, avec le FDP, le parti libéral, qui appartient à votre famille politique, qui se trouve en position de peut-être de revenir aux affaires, de revenir au pouvoir. Alors ce FDP, il est attaché à une interprétation assez rigoureuse du pacte de stabilité. Il est vraiment hostile à la dette européenne commune. En tout cas, c'est ce qui est inscrit dans son programme. Est-ce que tout ça, c'est bon pour l'Europe ?
Je crois d'abord que l'Allemagne souhaite être dirigée plutôt au centre, donc on ne s'attend pas à de très grands bouleversements dans la politique allemande. On a vu les programmes tels qu'ils ont été annoncés. Maintenant, vous parlez de la dette européenne. Bon, c'était peut-être une position qui a été défendue, mais la dette, elle est là. Maintenant, nous avons lancé les opérations et il a été possible de mettre en place une dette européenne pour assurer la relance et la résilience des économies européennes. Donc, on va continuer à travailler dans ce domaine. Je pense que ce qui est important, surtout quand on regarde la situation en Allemagne, c'est que l'engagement européen reste bien présent comme il l'a été ces dernières années, et puis que l'engagement sur les priorités européennes soit bien là, notamment sur le climat. Or, vous avez entendu, pas seulement le parti écologiste, mais les autres partis se sont engagés très fortement sur le volet climatique. Donc j'espère que nous aurons assez rapidement un nouveau gouvernement allemand et que l'on pourra travailler sur ces enjeux avec ce gouvernement et de renforcer encore les initiatives que nous avons prises en matière de lutte contre le changement climatique. C'est un des enjeux majeurs, comme le développement du numérique en Europe ou comme le développement, nous en parlions, de la défense européenne ou la définition d'une politique migratoire.
C'est la fin de l'ère Merkel, mais est-ce que la chancelière a été trop laxiste sur les dérives des valeurs à l'est de l'Europe, en particulier en cherchant à garder Viktor Orban dans sa famille politique, le Parti populaire européen ? Est-ce que la nouvelle coalition, de ce point de vue, va changer de cap ?
Ça, nous attendons de voir, évidemment, l'attitude de la nouvelle coalition, mais je dirais que malheureusement, on a accordé énormément d'attention, et il fallait le faire, à la convergence économique et sociale et à la politique budgétaire, mais beaucoup moins à la défense des valeurs. Comme si, lorsque des valeurs sont respectées dans un État européen, c'est un acquis définitif. Alors, je vous disais, ça n'est pas le cas. Je pense que Mme Merkel, comme d'autres, ont compris ces dernières années qu'il fallait maintenant accorder autant d'attention aux valeurs, à la démocratie, à l'état de droit, aux droits fondamentaux dans l'Union européenne qu'on le fait lorsque l'on discute de budget et d'évolution économique. Et depuis cette commission, nous avons, je disais, de nouveaux outils pour aller dans cette direction. Et j'ai d'ailleurs constaté que lorsque il a fallu décider de la conditionnalité des budgets par rapport à l'état de droit, Mme Merkel a mis tout son poids pendant la présidence allemande pour obtenir une décision. Donc c'est vrai que l'Allemagne n'a peut-être pas la même vision que d'autres sur le rapport à l'Europe centrale et à l'Europe orientale, mais en attendant, lorsqu'il a fallu être ferme et mettre en place de nouveaux outils, je crois qu'on a pu compter sur la chancelière. Donc j'espère que l'on pourra compter au moins de la même façon sur le nouveau gouvernement allemand.
Merci Didier Reinders, merci à tous pour votre fidélité et à bientôt.